VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington, Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, il est 19h30, temps universel, Le Monde aujourd'hui, édition du mardi 27 juin 2017, en direct de Washington DC. Au sommaire ce soir, en République démocratique du Congo, 10 nouvelles fosses communes ont été découvertes dans le Kasaï. Deux étudiants togolais ont été condamnés à 12 mois de prison avec sursis. Dans l'est du Kenya, 4 enfants et 4 policiers tués par l'explosion d'une bombe en bordure de route. Plus de 8000 migrants ont été secourus au cours des dernières 48 heures au large de la Libye. Et en partie magazine, nous aurons un reportage sur les diplômés chômeurs au Burundi. Retrouvez Yacouba Ouédraogo à la fin de ce journal pour les sports et Jacques Aristide pour la Minute Éco. Mais d'abord, le journal. En République démocratique du Congo, 10 nouvelles fosses communes ont été découvertes sur l'axe Chikapa, Sumbula et Diboko dans le Kasaï. Selon le procureur général de la République, Flori Kabange, une importante équipe conduite par un magistrat s'est déjà rendue sur les lieux. Il a par ailleurs annoncé avoir reçu l'autorisation de l'Assemblée nationale pour enquêter sur l'affaire Clément Kankou, soupçonné d'être l'un des instigateurs des violences qui ont fait plus de 3000 morts. Au micro de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa, écoutons le procureur général de la République, Flori Kabange.
Le parquet général de la République s'active à rechercher les éventuels tireurs des ficelles dans cette grave et sinistre affaire. Il s'agit d'une démarche en vue d'identifier avec précision les donneurs d'ordre, les commanditaires, afin qu'ils subissent la rigueur de la loi. C'est dans ce cadre qu'un dossier judiciaire y est ouvert à charge du député national Clément Kankou, à partir notamment de l'élément sonore se trouvant dans les 10 dossiers qui reprend une conversation téléphonique entre les 10 députés national recevant le rapport détaillé d'actes de destruction, d'incendie et d'exaction en cours à Timbulu en date du 8 août 2016. L'honorable député y exprime sa pleine satisfaction et encourage son interlocuteur à faire davantage.
C'était le procureur général de la République, Flori Kabange, au micro de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa. Le nouvel envoyé spécial de l'ONU au Burundi, Michel Kafando, est arrivé à Bujumbura pour une visite protocolaire. Le nouvel envoyé spécial vient pour rencontrer et faire connaissance avec le président Pierre Nkurunziza, se présenter pour un premier contact, a annoncé à l'AFP une source onusienne. Il doit ensuite se rendre en Tanzanie dès jeudi pour y rencontrer l'ancien président Benjamin Kapa, facilitateur dans la crise burundaise. République centrafricaine, le cardinal Dieudonné Dzapalenga, président de la conférence épiscopale centrafricaine, dit n'avoir mandaté personne à Rome pour la signature d'un accord de paix entre groupes armés. Un des signataires s'est pourtant réclamé de la CECA. Le 19 juin, 13 groupes rebelles sur les 14 recensés dans le pays ont signé à Rome un accord prévoyant un cessez-le-feu immédiat sous le parrainage de la communauté catholique Sant'Egidio. Dès le lendemain à Bria, deux violents affrontements ont fait une centaine de morts. Au Togo, condamnation avec sursis des deux étudiants arrêtés après les manifestations à l'université il y a 2 semaines. Les détails avec Claire Morin-Gibourg.
Poursuivi pour trouble à l'ordre public, aggravé de destruction de biens, Marius Abagénon et le principal meneur du mouvement des étudiants, Foli Sachivi, sont détenus à la prison civile de Lomé depuis le 14 juin. Ils ont été condamnés hier soir à 1 an de prison avec sursis par le tribunal de Lomé. Leurs avocats ont décidé d'interjeter appel de cette décision. Maître Raphaël Kandé Adzaré, président de la Ligue togolaise des droits de l'homme, s'est déclaré déçu et déplore une justice à 2 vitesses. Le 19 juin, 7 autres étudiants accusés de rébellion et de dégradation de biens publics avaient été libérés après avoir été déclarés non coupables par le juge. À la mi-juin, des affrontements ont opposé des étudiants à la police sur le campus de Lomé. Des étudiants qui exigeaient la construction de nouvelles salles de cours et l'augmentation des bourses mensuelles.
Dans l'est du Kenya, à la frontière avec la Somalie, 4 enfants et 4 policiers ont été tués et plusieurs autres personnes blessées par l'explosion d'un engin piégé au passage de leur véhicule. Le point avec Idriss Fall.
L'explosion s'est produite sur la route entre Magarani et Kiunga, près de la frontière somalienne. Le camion de la police a heurté un engin explosif artisanal. Il y a eu au moins 8 morts, 4 policiers et 4 enfants, ainsi que plusieurs blessés. Les enfants rentrés après la fête de l'Aïd el-Fitr, qui marque la fin du Ramadan, ils devaient revenir sous escorte policière à Kiunga, où se trouve leur école. Le mois dernier, 4 policiers et un civil ont été tués dans la même zone par un engin piégé placés sur la route. Au total, 20 policiers et 15 civils ont été tués dans des attaques similaires ces dernières semaines dans les comtés de Mandera et Garissa, un peu plus au nord. L'attaque de ce mardi n'a pas été revendiquée, mais l'Est du Kenya est le théâtre d'une vague d'attentats revendiquée pour la plupart par les Chebabs somaliens.
Et on reste au Kenya. Le registre pour les élections générales du 8 août compte 5 millions d'électeurs de plus qu'au scrutin précédent. C'est ce qu'a annoncé la commission électorale, alors que des doutes persistent sur le nombre de personnes décédées et présentes sur ces listes. Uhuru Kenyatta et Raila Odinga sont à nouveau candidats, 10 ans après les pires violences électorales de l'histoire du pays.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le drame de l'immigration vers l'Europe, les corps d'au moins 25 migrants morts noyés ont été retrouvés sur le littoral dans l'est de la capitale libyenne Tripoli, selon le Croissant Rouge et un photographe de l'AFP. Plus de 8000 migrants ont été secourus au cours des dernières 48 heures en Méditerranée au large de la Libye, dont 5000 lundi, ont indiqué des gardes de côte. Tatiana Mousso.
De nombreux navires des gardes-côtes et de la marine militaire impliqués dans le dispositif Frontex, l'Agence européenne des frontières, et des ONG ont participé à ces opérations. L'équipage espagnol cherchait à porter secours à 2 autres embarcations pneumatiques et a été sollicité pour en assister 3 autres, précise la garde civile espagnole, qui prévoyait d'embarquer 1300 migrants, sa capacité maximum. De son côté, les gardes-côtes libyens ont indiqué avoir secouru mardi matin 147 personnes dans l'ouest de la Libye. La plupart des migrants sont du Cameroun, du Soudan, du Sénégal et du Mali. Dimanche, plus de 3000 migrants avaient déjà été secourus en Méditerranée au cours de 31 opérations distinctes et 2 corps sans vie ont été récupérés. Le beau temps favorise ces départs massifs qui compliquent fortement les secours. Avec environ 8300 personnes secourues en 48 heures, le record du 29 août 2016, où environ 7000 migrants avaient été secourus en 24 heures, n'était pas loin. Selon des chiffres du ministère italien de l'Intérieur, plus de 73 000 migrants sont arrivés sur le territoire depuis le début de l'année, une hausse de plus de 14% par rapport à la même période en 2016.
L'armée de l'air égyptienne a bombardé 12 véhicules transportant des armes et qui s'apprêtaient à traverser illégalement la frontière en provenance de Libye, c'est ce qu'indique l'armée. Les États-Unis soupçonnent le régime syrien de préparer une nouvelle attaque chimique. Washington se dit prêt à riposter, comme il l'avait fait après une attaque similaire début avril, des menaces qualifiées d'inadmissibles par la Russie. Les États-Unis ne se laisseront pas entraîner contre leur gré dans la guerre civile en Syrie. C'est ce qu'affirme le secrétaire américain à la défense, Jim Mattis, alors qu'un chasseur syrien a été récemment abattu par un avion américain, provoquant des tensions avec la Russie, principal allié avec l'Iran du régime de Bachar al-Assad. Les forces américaines dans la région n'ouvriront le feu que si elles ont affaire à l'ennemi, à l'État islamique, a ajouté M. Mattis. Et Syrie toujours, la coalition anti-djihadiste dirigée par Washington a bombardé une prison tenue par le groupe État islamique à Mayadine. L'Observatoire syrien des droits de l'homme, basé à Londres, parle de 57 morts, dont 42 civils emprisonnés et 15 djihadistes. Activité djihadiste aux Philippines également. L'armée dit avoir découvert une voie de ravitaillement ayant permis aux islamistes qui occupent partiellement une ville du sud de l'archipel de faire venir des munitions et d'évacuer leurs blessés et ainsi de résister depuis 5 semaines. Il faut dire que le 23 mai, des centaines de djihadistes brandissant le drapeau noir du groupe État islamique ont occupé plusieurs quartiers de Marawi. Ici à Washington, la majorité républicaine du Sénat a renoncé à voter cette semaine sur son projet de réforme du système de santé et d'abrogation partielle d'Obamacare, torpillé par des frondeurs du groupe. Nous allons continuer à discuter au sein du groupe pour résoudre nos différends. Par conséquent, nous n'examinons n'examineront pas la proposition de loi cette semaine, a annoncé le chef de la majorité sénatoriale, Mitch McConnell. Nous restons optimistes, a-t-il toutefois ajouté. Le report du vote est un revers pour la majorité et pour le président Donald Trump, qui a bien du mal à concrétiser sa promesse électorale d'abrogation de la loi démocrate de 2010 dans le viseur des républicains depuis des années. Enfin, quelques mots d'économie. Le FMI revoit à la baisse ses prévisions de croissance pour les États-Unis. Le Fonds monétaire international estime désormais que le produit intérieur brut américain n'avancera que de seulement 2,1% cette année et en 2018. Il prévoyait respectivement 2,3 et 2,5% en avril. Raison évoquée pour cette revue à la baisse, le plan de relance économique du président Trump est incertain. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, Jacques Aristide, c'est la Minute Éco.
Le Fonds monétaire international va octroyer un prêt de 666 millions de dollars au Cameroun destiné à redresser l'économie sur une période de 3 ans. Le pays a été durement frappé par la chute des prix du pétrole ainsi que par l'insécurité liée aux attaques de Boko Haram. Ces facteurs, d'après le FMI, ont affecté l'activité de la communauté économique et monétaire des États d'Afrique centrale. La Banque centrale du Congo relève à nouveau son taux directeur de 14 à 20% pour endiguer la dépréciation du franc congolais et lutter contre l'inflation. Depuis 2016, la RDC peine à freiner la chute de sa monnaie face au dollar. En janvier dernier, la Banque centrale avait déjà doublé ce taux directeur, mais l'économie est toujours en berne et le niveau de vie des Congolais dégringole. Le Zimbabwe, la Namibie et le Botswana ont suspendu les importations de volailles en provenance de l'Afrique du Sud pour cause de grippe aviaire. Pretoria a confirmé l'épidémie dans au moins 2 fermes après avoir décrété un embargo sur le poulet zimbabwéen. Les producteurs sud-africains ont évalué à 140 millions le nombre de leurs poulets sous la menace si le virus identifié au Zimbabwe venait à se propager sur leur territoire.
On enchaîne sur les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Coupe COSAFA, deuxième journée aujourd'hui dans le groupe A.
Le Malawi et l'île Maurice n'ont pas pu se départager. 0-0, un score qui n'arrange pas les deux formations, déjà reléguées aux dernières places du groupe A. En lutte également l'Angola et la Tanzanie, les deux leaders du groupe.
Coupe des Confédérations en Russie, Bernardo Silva, incertain pour la demi-finale.
Effectivement, le milieu offensif portugais, touché à une cheville contre la Nouvelle-Zélande, s'est entraîné en marge du groupe hier à Kazan. Il reste incertain pour la demi-finale Portugal-Chili demain. Ricardo Quaresma a du coup de grandes chances d'être titularisé comme milieu ou ailier droit contre le Chili.
Fin du feuilleton, Bertrand Traoré.
C'est fait, l'attaquant Burkinabé est officiellement un joueur de l'Olympique Lyonnais. L'OL a déboursé 10 millions d'euros pour s'attacher les services de l'étalon de 21 ans. Bertrand Traoré s'est engagé pour 5 ans. International Burkinabé depuis 2011, 40 sélections, 6 buts. Formé à Auxerre, Bertrand Traoré, désormais ex-joueur de Chelsea, a été prêté la saison écoulée à l'Ajax, 39 matchs, 13 buts.
Arrivée d'un joueur congolais en MLS.
Oui, après 5 années passées en Turquie, l'international congolais Larissa Mabiala, 29 ans, part aux États-Unis. Libre de tout engagement, l'ancien joueur de Paris et de Nice rejoint les Portland Timbers.
NBA, championnat de basket nord-américain, Russell Westbrook, sacré MVP de la saison.
En effet, c'était dans les tuyaux depuis plusieurs mois déjà. C'est désormais officiel. Russell Westbrook a été nommé meilleur joueur de la saison régulière écoulée après avoir tout simplement ébloui tout le monde de son talent. Le joueur d'Oklahoma City est devenu le deuxième joueur de l'histoire à finir une saison régulière avec un triple-double en moyenne, avec 31,6 points, 10,7 rebonds et 18,4 passes décisives par match.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Guirguec, deuxième partie d'émission, les dossiers du jour. Parlons de terrorisme ce soir avec cette question. Que devient Malam Ibrahim Diko? C'est le chef du groupe terroriste Ansarul Islam qui a perpétré la plupart des récentes attaques au nord du Burkina Faso. Aujourd'hui, un communiqué sur une page Facebook attribuée au groupe terroriste a désigné Jafar Diko comme le nouveau chef d'Ansarul Islam. Malam Diko a-t-il été tué dans les récentes opérations antiterroristes dans le Nord Mali? Bagassikoura a joint à Bamako Moussa Diko, un journaliste.
Sous réserve d'être authentifié, parce que c'est un communiqué publié sur une page Facebook, si jamais le communiqué est authentifié venant de Ansar Islam, ça veut dire qu'il y a un changement de leadership au niveau de cette Katiba qui est beaucoup plus affiliée à l'État islamique qu'à Hakimi au Sahel, Maghreb du moins.
Oui. Alors, dans le communiqué, il parle de circonstances graves. Ça pourrait faire allusion à quoi?
Le communiqué est flou, mais circonstances graves, et puis quand je vois qu'Allah le facilite, qui revient plusieurs fois, on a l'impression que les dernières opérations des forces Barkhane dans cette zone ont sans doute coûté la vie à Malam Ibrahim Diko. C'est l'impression que j'ai beaucoup plus que les messieurs. Soit il a été tué lors d'une opération Barkhane, ou il a été victime d'un règlement de compte au niveau même de son organisation. C'est l'impression que le communiqué donne.
Alors, on dit que son remplaçant, le remplaçant d'Ibrahim Diko, c'est Jafar Diko. Est-ce que vous connaissez cet homme?
Je ne connais pas précisément Jafar Diko. C'est un liste inconnu qui va peut-être sortir bientôt de l'anonymat. Et il faut surtout craindre des représailles, des opérations d'envergure, parce que chaque nouveau responsable nommé au niveau d'une katiba ou d'une organisation terroriste cherche d'abord à se mettre en évidence pour se faire respecter d'abord au sein de sa katiba.
Parlez-nous de l'importance de Ansarul Islam au sein des groupes islamistes au nord au Mali.
Et Ansarul a une position très ambiguë parce que, vous savez, récemment, il y a eu une alliance au niveau du Sahel où on a créé une nouvelle alliance commandée par IAD. Mais curieusement, Ansarul n'est pas dans cette dynamique, parce qu'Ansarul est beaucoup plus rattaché à l'État islamique, comme je l'ai dit plus haut. Mais bon, Ansarul a une puissance parce que c'est Ansarul qui a amené le djihad au Burkina Faso. Ansarul est devenu vraiment un élément très dangereux parce que ces éléments naviguent entre les frontières du Mali et le Burkina. Ils commettent des actes au Burkina, ils se réfugient au Mali, ils admettent des dégâts au Mali et ils retournent au Burkina. C'est ce qui explique d'ailleurs la multiplication des opérations de ratissage des armées maliennes burkinabées et soutenues par Barkhane dans cette zone.
Moussa Diko, joint à Bamako par Bagassikoura.
Dans Washington Forum cette semaine, la situation politique et sécuritaire au Mali, report du référendum constitutionnel initialement prévu le 9 juillet, opposition et société civile qui descendent dans la rue face à une fronde au sein même de la mouvance présidentielle. Quel est le but de ce référendum si le nord du pays ne peut pas y participer? Multiplication des attentats, où en est la lutte contre les djihadistes? Quelle réunification du pays dans ces conditions? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA. Et je vous donne rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel, avec Tatiana Mosso et ses invités.
Nous partons au Burundi. Le chômage des jeunes entre 18 et 35 ans, qui constitue une démographie qui constitue 52% de la population, selon l'Institut d'État statistique et des études économiques du Burundi, reste préoccupant. Malgré le manque de statistiques assez précises sur les étudiants qui terminent le cycle universitaire, la majorité des diplômés finissent au chômage. Très peu d'entre eux trouvent du travail dans la fonction publique. Notre correspondant à Bujumbura nous parle dans ce magazine de ces chômeurs diplômés. Reportage.
Ils sont des milliers d'étudiants qui terminent le second cycle des universités publiques et privées au Burundi. Rares sont ceux qui ont la possibilité d'être embauchés par la fonction publique burundaise et dans des compagnies privées. Fini l'époque où chaque mémorant pouvait choisir être nommé au promu responsable d'une société étatique ou para-étatique. Ce jeune de 30 ans a terminé il y a 2 ans la gestion et l'administration des affaires dans une université privée Bujumbura. Il fait de petits jobs dans certains restaurants.
Nous faisons de petits travaux. Par exemple, dans les petits cabarets au Sénaké Bar. Nous travaillons comme serveur ou comme gestionnaire. Nous vivons, vous connaissez la vie socio-économique. La vie est difficile, totalement difficile. Nous demandons au gouvernement d'établir le plan stratégique de lutte contre la pauvreté dans notre pays.
Cet autre chimiste de formation de 25 ans cherche du travail depuis 4 ans. Les recrutements sont gelés depuis plusieurs années à la fonction publique. Ce chimiste se débrouille en donnant des cours au secondaire.
Il y a beaucoup d'étudiants qui sortent des universités alors que l'État qui devait donner l'emploi aux étudiants, il n'a pas de place. On cherche dans des ministères où on affiche les recrutements et on dépose les dossiers, espérant avoir du travail, mais le résultat reste négatif.
Cet ancien universitaire de 30 ans étudiait le département d'anglais à la faculté des lettres et sciences humaines. Il passe ses journées à la maison.
Nous vivons d'une façon mal, comme tant d'autres, vous voyez que nous sommes dans une crise économique, politique, pas de différence avec ceux qui ont passé au banc de l'école, ou aussi qui n'est pas passé au banc de l'école. Aujourd'hui, je suis à la maison. Il y a des offres dans tel ministère ou dans telle société, mais quand il arrive pour demander de telles offres, il dit qu'il n'y a rien. Nous demandons à notre gouvernement de vraiment chercher des emplois concernant des étudiants qui ont terminé les écoles pour trouver un emploi pour travailler.
Avec le gel des recrutements à la fonction publique, selon un expert en entrepreneuriat qui a requis l'anonymat, les gouvernements burundais devraient créer des structures d'encadrement de jeunes pour que ces derniers puissent avoir leurs propres emplois. Mais cet expert a insisté que l'accès au financement de ces structures doit être revu, surtout que l'octroi de crédit est conditionné à des garanties ou à des hypothèques bancaires. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Le Programme alimentaire mondial a demandé à l'Union européenne de l'aider à réunir $1 milliard au cours des prochains mois pour sauver des centaines de milliers d'enfants menacés par la faim au Nigeria, en Somalie, au Soudan du Sud et au Yémen. Solange Niamoulissa a joint André Vornik, porte-parole du PAM, pour un état des lieux.
Nous parlons a priori de 20 millions de personnes qui sont menacées par la famine. Il faut savoir que les chiffres se sont un peu améliorés ces dernières semaines dans la mesure où les deux post-famine auxquels on avait affaire au Soudan du Sud ont été plus ou moins résolus. Alors on a réussi à, disons, amoindrir l'impact en réussissant à prépositionner de la nourriture de façon à venir en aide aux populations. Et il faut dire aussi qu'on a bénéficié d'un accès humanitaire un peu plus accru que ce n'était le cas auparavant. Cela dit, il faut quand même souligner qu'il reste toujours 20 millions de personnes qui sont dans un état d'insécurité alimentaire aigu et qui sont toujours sur le bord de la famine.
Et quelles sont les régions touchées tout justement par cette famine ?
Alors nous avons affaire au nord-est du Nigeria où nous avons 3 états, surtout l'état de Borno, qui sont les états en fait les plus touchés par l'insurrection de Boko Haram. Vous avez une partie de la Somalie, vous avez le Sud-Soudan et vous avez bien sûr le Yémen. Il s'agit essentiellement d'un conflit qui perdure et qui met en danger quasiment la totalité du pays.
Ce n'est pas la première fois que le PAM vient de lancer un tel appel. Et si vous ne recevez pas l'argent, qu'est-ce qui va se passer ?
Si on ne reçoit pas l'argent, des gens vont mourir. Et nous parlons effectivement de beaucoup de personnes. Évidemment, il n'y aura sans doute pas 20 millions de morts, mais nous parlons quand même potentiellement, par exemple, de 100 000 enfants qui souffrent de malnutrition et qui risquent effectivement de perdre la vie. Il faut savoir aussi que la famine, c'est quelque chose qui frappe d'une façon extrêmement aiguë les populations, mais que si on intervient trop tard, même si on arrive à réduire l'impact, l'impact dure quand même pendant des années. Il faut savoir quand même qu'il s'agit d'une perte de la force productive de divers pays.
Combien d'argent avez-vous besoin pour répondre à ces besoins?
Grosso modo, nous parlons d'à peu près 1,1 milliard de dollars répartis sur les 4 pays. Bien sûr, ce n'est qu'une partie des chiffres nécessaires sur la longueur de l'année, mais il faut savoir que cette crise touche tout le monde et nous comprenons d'une certaine façon le fait que les pays donateurs soient un peu moins disposés à payer pour essayer de remédier à cette tragédie, dans la mesure où bien sûr il y a des pressions budgétaires internes, dans la mesure où il y a une profusion de crises qui se déroulent sous nos yeux. Mais nous en appelons quand même à la solidarité internationale sur ce dossier. Et il faut savoir que nous ne nous bornons pas seulement à demander de l'argent. Nous demandons aussi à ce que pression soit faite sur les parties en conflit, parce qu'il faut savoir que dans quasiment toutes ces zones qui sont affectées, les parties en conflit ne respectent pas le droit humanitaire.
Voilà, c'était André Vornik, porte-parole du PAM à Rome.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Vietnam, un blogueur déchu de sa nationalité a été expulsé vers la France, où il est arrivé dimanche. Pham Minh Hoang, 62 ans, est le premier dissident à se voir retirer sa nationalité vietnamienne. Ce professeur de mathématiques avait déjà été condamné en 2011 à 3 ans de prison, puis à 3 années d'assignation à résidence. Idriss Fall a joint à Paris M. Pham Minh Hoang, le blogueur expulsé du Vietnam.
Le gouvernement vietnamien a retiré ma nationalité vietnamienne par un décret signé par le président. Et la police veut que je quitte le Vietnam tout de suite. On a déjà envoyé une lettre de recours au ministère de la Justice. Mais au moment que je vous parle, on n'a pas encore reçu la réponse.
Dans quelles conditions vous avez été expulsé du Vietnam?
Le vendredi 23 juin, sous prétexte de contrôle de routine. Quand j'ouvre la porte, 5 personnes arrivent en force. Ils commencent par me montrer un document. Il m'a dit que ma situation est irrégulière parce que je suis plus vietnamien et je n'ai pas de visa. Dans ce cas, ils me demandent de les suivre pour, entre guillemets, régulariser ma situation. Mais tout le monde sait que c'est un prétexte pour me faire sortir, m'arrêter et après m'expulser du Vietnam. Il a sorti le deuxième document, c'est un ordre d'expulsion. La date, le 24 juin, c'est-à-dire le samedi. J'ai décidé de ne rien signer, de ne pas quitter. Tout de suite, il ouvre la porte. 10 autres personnes, c'est-à-dire dans ma maison, il y a environ 15 personnes. Il me force de quitter la maison sans me laisser le temps de réhabiller. J'ai seulement un caleçon et un maillot vraiment très léger. Et puis on m'a poussé hors de ma maison. Quand j'étais dehors, je suis vraiment horrifié par le nombre de policiers qu'on m'a fait autour de chez moi. Il y a environ 40 à 50 personnes. Ils ont employé des moyens très forts, comme des gros camions pour barrer la route, pour isoler tout le quartier. Personne n'a osé de protester.
C'est après qu'ils vous ont mis dans l'avion le samedi pour aller sur
le parc? Non. Après, il m'a transporté vers un centre de détention provisoire en attendant l'expulsion, c'est-à-dire le samedi. Le consul français arrive pour me dire que tous les recours contre la décision présidentielle étaient inutiles parce qu'au Vietnam, selon la loi, le seul organe qui puisse protester contre le décret présidentiel, c'est le comité permanent de l'Assemblée nationale. Et vous savez que dans un pays totalitaire comme le Vietnam, ils sont tous le même clan.
Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Qu'est-ce que vous allez faire?
Je ne sais pas encore, mais je vous dis tout de suite que je continue à militer par mes moyens. Maintenant, mes moyens sont assez limités. Je suis loin de ma famille, loin de mes amis au Vietnam. Mais je tente de faire le maximum possible pour continuer la lutte pour la démocratie au Vietnam.
Voilà, c'était Pham Minh Hoang, blogueur expulsé du Vietnam vers la France.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole à nos auditeurs. En direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez à la
appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Michel Joseph, Morgan Guériec à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.